OK, enregistrement, c'est parti. Alors, OK, on commence. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo
Bhagavate
Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo
Bhagavate
Vasudevaya.
Suis le Prabhupada qui. Alors,
Jai.
aujourd'hui, j'en ai lu un petit bout du cours aujourd'hui. Et personnellement, je trouve ça assez extatique comme sujet aujourd'hui. Alors, on va commencer de sitôt. Alors, page 162, ligne 13, Virginie, s'il vous plaît.
Hare Krishna. Force est de constater dans ce verset de la Bhagavad Gita 8.22 que Krishna parle de dévotion pure comme unique moyen de l'approcher. Il parle aussi de son aspect omniprésent. Y aurait-il un lien entre la pure dévotion et l'omniprésence de Krishna? La réponse est oui. Et maintenant, où est ce lien? Il est dans la conscience, au niveau spirituel de l'âme éveillée à sa pureté d'origine. Cette conscience se veut imprégnée de la notion de l'omniprésence du Seigneur pour certaines raisons. Premièrement, incitatif à se rappeler du Seigneur en toutes circonstances, tel que le veut d'ailleurs le Seigneur. Bhagavad Gita 9.34. Deuxièmement, dû à ce souvenir constant de l'omniprésence du Seigneur, le comportement du Bhakta est aligné en conséquence. Le Bhakta désire naturellement servir le Seigneur, étant conscient de l'omniprésence du Seigneur. Cette omniprésence équivaut à la présence même ressentie et réalisée par le Bhakta de premier ordre. Par exemple, Prahlad Maharaj. Troisièmement, incitatif à la joie d'une constante présence protectrice du Seigneur. Les vrais yogis et les bhaktas ne se sentent jamais seuls dû au fait de leur réalisation de l'omniprésence du Seigneur. Évidemment, cette réalisation ne signifie pas omniscience comme le Seigneur, mais la dite réalisation fait partie de la conscience dévotionnelle d'un bhakta. Aucun dévot ne penserait le contraire, comme si Krishna n'était ni omniprésent ni omniscient du même coup. Telle la base même de la relation de l'âme individuelle avec l'âme suprême. Quatrièmement, en chantant le Mahamantra, le Bhakta témoigne de l'omniprésence du Seigneur car il est bel et bien conscient. Il devient de ce fait un instrument inspiré de l'intérieur dont peut se servir le Seigneur à ses fins. Le Seigneur est guide et le dévot est guidé, toujours disposé à le servir. En tant qu'âme suprême, Krishna accompagne l'âme individuelle et témoigne et sanctionne ses actions en fonction des désirs de cette dernière. Il est comparé à l'oiseau perché dans l'arbre du corps qui observe l'autre oiseau qu'est l'âme individuelle occupée qu'elle est à savourer les fruits de l'arbre. Il l'observe et elle tente de jouir des fruits de ses actes. Un scénario pas mal égoïste, en fait. Mais qu'à cela ne tienne, le scénario est artificiel. L'âme individuelle n'a pas la capacité de jouir par elle-même, pour elle-même, à moins que ce ne soit de façon artificielle, contre nature, car elle n'est propriétaire ni bénéficiaire de quoi que ce soit. Cette position revient à Dieu, Krishna, lui, le véritable propriétaire et bénéficiaire de tout ce qui existe. Somme toute, l'âme conditionnée ne cherche qu'à assumer une position qui ne lui revient aucunement. Et c'est ainsi que vient en scène le pur service de dévotion qui fait surface dans le cœur de l'âme individuelle lorsqu'elle s'affranchit de son illusion sempiternelle par la grâce de Guru et de Krishna. À ce moment-là, la joie est fonction d'un détachement croissant de tout ce qui est plaisir matériel égoïste. Et plaisir matériel veut dire le plaisir factice de vouloir jouir, comme si l'on voulait, malgré tout, se prendre pour Krishna. Et ce, même si en fait il n'y a qu'un seul et unique Krishna, suprême et sans égal. L'illusion, la perdition en d'innombrables désirs matériels perdure aussi longtemps que l'âme conditionnée n'arrive pas à comprendre sa propre méprise d'avoir voulu causer.
Sa profonde.
Et pardon, excusez-moi, sa profonde méprise d'avoir voulu un jour envier la position de Krishna pour soi-disant se l'approprier, ce qui relève d'une pure illusion. L'âme individuelle jadis envahie de mille et un désirs désespérés de jouissance matérielle, elle n'affiche une fois sa conscience de Krishna retrouvée qu'un seul désir, au lieu de se perdre dans une pléiade de désirs incompatibles avec sa véritable nature constitutive, c'est-à-dire le désir entièrement focalisé de servir Krishna inconditionnellement à sa satisfaction. Sur cette base, elle peut s'attirer la protection divine du Seigneur. Cette protection est essentielle à son retour auprès du Seigneur, car le Seigneur lui donnera l'intelligence dessapée à l'emprise de Maya. D'ailleurs, c'est le Seigneur, en fait, qui ordonne à Maya de lâcher son emprise sur l'âme conditionnée. Le processus est naturel et graduel. Graduel comme tout ce qui est naturel, d'ailleurs. Tout se manifeste naturellement dans le cœur, étape par étape, par la grâce du maître spirituel et de Krishna. C'est pourquoi la patience est à l'honneur dans le service de dévotion. Malgré toute contradiction apparente, la patience, mère de toutes les vertus, dit-on, est l'accélérateur susceptible d'attirer l'attention de Krishna. Et lorsque Krishna veut couvrir un dévot de son attention, il n'y a que des réalisations sublimes qui attendent le dévot. Peu importe ce que Krishna pourrait lui faire subir comme épreuve externe ou connaître comme bonheur externe aussi. Tout ce que Krishna donne à son dévot n'est absolument rien d'autre que sa miséricorde indicible aux yeux de ce dernier. Pareille relation et reconnaissance de l'absolu est au-delà de tout agencement, aussi alléchant soit-il des gunas propres à l'énergie matérielle. Aussi inconditionnel que le dévot puisse être, l'est tout autant la miséricorde du Seigneur à son égard, avec en plus le bonus d'être entièrement situé et ressenti dans un cœur purifié, élevé au niveau spirituel. C'est l'âme qui y trouve son comble. Cette relation sublime peut être éveillée n'importe où, n'importe quand, par la grâce de Krishna. Le dévot est satisfait de cette miséricorde et se trouve ainsi libéré de toutes les dualités de l'énergie matérielle. En pareille situation de dépendance et d'éligibilité à la miséricorde du Seigneur, la grâce du Seigneur et du Maître spirituel en constitue le facteur clé. On ne peut l'acheter que par un service rendu avec une attitude dévotionnelle appropriée. La dite attitude est décrite dans le Srimad Bhagavatam 1.2.6. L'occupation suprême pour l'homme est celle qui le conduit à servir l'absolu Seigneur avec amour et dévotion. Et quant à ce service de dévotion, il doit, pour combler l'âme, se faire ininterrompu et immotivé.
Jai, merci beaucoup. Allez, allez, Bol.
Allez, allez, Bol.
Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Juste savoir, le mot interrompu, ça veut dire quoi? Ou juste, ça veut dire
Le
sans
mot quoi?
interrompu.
Ah, interrompu, ça veut dire, je veux dire en anglais, to be stopped. Interrompu, c'est arrêté.
Puis si c'est arrêté, ça veut dire c'est faut recommencer en neuf.
Non, pas nécessairement. Interrompu, ça veut dire qu'il y a en français, on dit une interruption. Ça veut dire que c'est arrêté pour un certain temps. Puis après, ça peut recommencer. C'est comme, mettons, à la télévision, des fois, il y a un problème technique, puis ils vont s'excuser, puis ils vont dire, nous connaissons des problèmes techniques, nous avons une interruption de tel programme, ça va recommencer aussitôt qu'on sera prêt, ou quelque chose comme ça. Alors ça, c'est une interruption. Alors, ce qui est dit ici, c'est le service de dévotion pur peut combler l'âme complètement, mais à condition qu'il n'y ait pas d'interruption. Ah, c'est ça le problème. Le problème, c'est que un dévot néophyte, comme nous sommes dans ce cas-là, c'est que pour une raison ou pour une autre, l'énergie matérielle nous nous embobine et notre service n'est pas sans interruption. C'est dû au fait que la conscience de Krishna n'est pas aussi forte que la conscience de Krishna chez un pur dévot, par exemple. Le pur dévot, lui, il y a une teneur et portée de Srila Prabhupada dans la Bhagavad Gita, dans laquelle Prabhupada dit, un pur serviteur de Dieu, de Krishna, ne peut pas vivre sans conscience de Krishna. Il ne peut pas passer un moment sans penser à Krishna, sans être engagé dans un service offert à Krishna. Alors ça, c'est la différence entre, disons, un dévot néophyte qui essaie, qui est sincère, mais qui n'est pas parvenu justement à une dévotion qui est sans faille, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de distraction ou d'empêchement quelconque pour une raison ou pour une autre. Alors, c'est, disons, un dévot, il est ce qu'il est. Il va pas s'en cacher. Un dévot quand même s'il n'est pas absolument 100% pur, il va, comment on peut dire, le désir est là de s'améliorer. Et Krishna le voit, ça. Alors, Krishna n'a jamais fini de montrer sa miséricorde à un dévot, quel que soit son niveau. Et ça, c'est la volonté de Krishna. Alors, Krishna dit, celui qui s'engage tout le temps dans mon service, je lui donne l'intelligence par laquelle il peut venir à moi. Alors, tout ça, c'est, la grâce de Krishna, là, c'est pas juste le dévot qui voit, ah, ça c'est la grâce de Krishna. Tu sais, le dévot pourrait être, mettons, en dessous de, comme Newton, là. Il était en dessous d'un pommier, puis il y a une pomme qui tombe, puis il arrive à penser, ah, ça c'est la loi, une telle, la gravité, ou je sais pas trop quoi. Mais pour un dévot, gravité, pas gravité, c'est la grâce de Krishna d'abord. Alors, la pomme est tombée sur ma tête. Ah, c'est la grâce de Krishna. c'est assez simple comme raisonnement de faire toujours le lien avec Krishna. Parce qu'en réalité, comme c'est dit, il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge sans la volonté de Krishna. Alors, tout est dans, comme Prabhupada dit, c'est comme, tout est contrôlé comme, mettons, de la poussière qui est dans la paume de la main, t'as le poing fermé. Ça s'en va nulle part, là, c'est contrôlé. Alors, l'énergie matérielle est comme ça. Alors, pour un dévot, lui, il voit le problème, c'est l'influence des trois gunas. La vertu, la passion, l'ignorance. Même si le dévot, lui, il cherche pas à avoir une vie dans la vertu. Juste pour l'amour d'avoir une vie vertueuse, ça ne l'intéresse pas non plus. Tu sais, si par exemple, tu dis à un dévot, je te mets dans une fusée, puis tu t'en vas sur la lune, puis là, tu dis au dévot, ben, Prabhupada, il a dit que la lune, c'est une planète édénique. Les gens vivent là-bas 10 000 ans. Tu devrais être content. On t'envoie là-bas, là. Et comme Prabhupada dit, ils sont jamais allés sur la lune parce que la lune est trop loin. Ils sont allés sur d'autres choses, mais pas la lune. Anyway, ça, c'est une autre histoire. Comme Prabhupada dit, ils sont allés peut-être sur Rahu, qui est une autre planète, mais pas la lune. Alors, anyway, on s'engagera pas dans le sujet, là. Mais c'est ça. Alors, un dévot n'est pas intéressé vraiment aux planètes édéniques. C'est quoi la mentalité d'un dévot? C'est que s'il n'y a pas Krishna, c'est l'enfer. Puis s'il y a Krishna, même si c'est une planète dite infernale, c'est le ciel aussi. Pourvu qu'il y ait Krishna, c'est ça qui compte pour un dévot. Et on en a expérience soi-même. Parce que comment est-ce qu'on pourrait être heureux une fois qu'on a découvert ou qu'on a commencé à être conscient de Krishna, comment est-ce qu'on pourrait être heureux avec d'autres choses que la conscience de Krishna? C'est pratiquement impossible. À moins d'avoir fait une grosse offense en quelque part, à quelque Vaishnav quelconque, puis là, Krishna nous punit, puis on va être dans gratification des sens à nouveau. Alors, il y a un exemple de ça dans le Srimad Bhagavatam. Un Sobari Muni, une fois il a fait une grosse offense à un grand dévot de Krishna. Connaissez-vous cette histoire-là? Alors, Sobari Muni, en fait, un yogi qui méditait dans le fond de l'eau. Il voulait pas être dérangé par personne. Alors, il méditait dans le fond de l'eau, puis tout allait bien. Ça allait son affaire. Pendant des années, il a fait ça. Et un jour, Garuda est venu pour attraper du poisson dans la rivière. Parce que Garuda, il mange des poissons, là. Alors, le yogi a pas vu ça, pas aimé ça. Alors, je me souviens plus de l'histoire détaillée, mais en tout cas, il a fait une offense à Garuda. Et à cause de cette offense-là, il n'a pas été capable de continuer à méditer au fond de l'eau. Il était en train de s'étouffer dans l'eau. La réaction a été rapide. Et après, et comment ça a commencé tout ça? Parce que quand il était dans le fond de l'eau, il a vu un couple de poissons en train de s'accoupler. Et là, c'est entré dans son esprit, puis ça lui a donné des idées. Et puis, à ce moment-là, il venait de chuter, disons, de sa méditation. Il n'était plus au même niveau. Et par après, il est devenu, un homme marié avec beaucoup de femmes, des milliers de femmes. Puis, il essayait d'être heureux comme ça. C'est comme s'il était forcé de passer par cette voie-là. Et un jour, il a eu quand même la réalisation que il n'y a rien là. Il y a pas de vraiment de bonheur pour le satisfaire. Et là, il est redevenu, disons, conscient de Krishna. Et ça, c'est dans le Srimad Bhagavatam, cette histoire-là. Alors, c'est ça. Il faut pas faire des offenses dans le service de dévotion. Alors, la première offense au Maha Mantra, c'est justement, c'est de critiquer, envier, jalouser des dévots qui ont donné leur vie pour propager le chant des saints noms. Alors, faut pas se penser plus intelligent que des dévots qui sont engagés, eux aussi, à la propagation du chant des saints noms, qui chantent les saints noms, qui essaient de propager. Il vaut mieux s'abstenir de commettre des offenses. C'est aussi simple que ça, là. Et puis, à ce moment-là, on va être tranquille. Et puis, c'est dans le fond, qu'est-ce que ça donne, de toute façon, de critiquer? Ça change pas grand-chose. On est en train de critiquer quelqu'un. On est dans notre propre coin. Puis, on se pense bien bon parce qu'on a vu telle chose. Mais quelqu'un qui est vraiment sage va pas critiquer les autres. Il va plutôt se critiquer lui-même. S'il y a quelqu'un à critiquer, c'est de se critiquer soi-même et d'essayer de changer les choses par rapport à soi-même. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non? All right. OK. Alors, un petit point. On a parlé de l'omniprésence de Krishna et puis aussi l'omniscience de Krishna. Puis on a posé la question, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Mais en fait, si on se met du point de vue de Krishna, comment voulez-vous qu'il ne soit pas omniscient s'il est présent partout? Il est présent dans le cœur de tous les êtres. Il est présent dans l'atome. Et comme Prabhupada dit, même entre les atomes, il est présent partout. Alors, il est au courant. Il est conscient en plus. Ça, c'est le Srimad Bhagavatam qui dit « Abhigya Swarat ». C'est dans le premier verset de Srimad Bhagavatam. « Abhigya Swarat ». Il est pleinement conscient et Swarat, pleinement indépendant. Ça, c'est Krishna. Alors, la connaissance, comme Krishna dit, qu'il est la source de la connaissance. De lui vient la connaissance, l'oubli, le souvenir. Alors, l'être spirituel ne peut pas être heureux sans conscience de Krishna. C'est impossible. Parce que Krishna est tout. Il est partout. Et en fait, tout ce qu'on regarde, c'est toujours Krishna. C'est toujours son énergie. Alors, pour un dévot, comme Prabhupada dit dans le livre de Krishna, le dévot est les matérialistes sont intéressés par l'énergie de Krishna. Mais un dévot, lui, est intéressé par la source énergétique. Pas juste les énergies de Krishna. En fait, il est plus préoccupé par la source énergétique. Alors, c'est pourquoi, dans le service de dévotion, il y a une activité qui est très importante, un service dévotionnel qui est très important, et celui-là, c'est l'adoration de Krishna. Alors, c'est inséparable du service de dévotion, l'adoration de Krishna. C'est une marque de reconnaissance à l'égard de Krishna. Puis ça fait plaisir à l'âme spirituelle de faire des activités pour procurer du plaisir au sens de Krishna. Alors, par exemple, un dévot va pas cuisiner pour lui-même, mais il va cuisiner pour Krishna. Faire une offrande à Krishna de la nourriture qu'il aura cuisinée. Et Krishna dit, lorsque l'offrande lui est présentée avec amour et dévotion, Krishna va l'accepter. C'est la bhakti. C'est l'amour et la dévotion pour Krishna. Et il y a juste avec Dieu, avec Krishna, que l'amour et la dévotion peuvent être disons, développé ou accompli. C'est juste en rapport avec Krishna. On peut pas dire, nos relations corporelles, on peut faire de la dévotion avec ça. Ça marche pas, là. Parce que les relations basées sur le corps sont temporaires. Et puis, une bonne partie de ça, il y a une certaine part d'égoïsme là-dedans. Comme Prabhupada dit, un jeune homme aime une jeune fille, mais en fait, un et l'autre, c'est pour leur satisfaction des sens. Question, s'il vous plaît?
Non, non, j'avais un souci à la main, en fait. Je massais la main.
Ah, ok, je pensais que tu avais une...
Non, non, j'écoutais.
Une question, ok. je disais, elle attend. Elle attend de poser une question, ok. Alors, c'est ça. Je vous pose la question. Avez-vous des questions ou des commentaires? OK. Oui?
Non, juste que, en fait, quand on développe sa relation avec Krishna, on le sent de l'intérieur. Ça a été dit aussi tout à l'heure. On sent les choses évoluer au niveau de sa conscience, de la perception qu'on a de sa relation avec les autres, avec On le sent en fait. Je pense que c'est personnel à chaque âme, puisqu'on est tous avec une individualité. Mais le processus, il est le même en fait. On le sent. On sent Krishna ce lien qui se crée en fait.
Ouais, c'est une relation confidentielle
C'est ça.
de penser à Krishna. Comme Krishna dit, on l'a cité ici, Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 34. Alors, ce verset-là, c'est Man Mana Bhavamad Bhakto, Madhyaji Mam Namaskuru, Mam Evaishasi Yuktvaivam, Atmanam Mat Parayana. Ce qui veut dire, emplis toujours ton mental de moi, deviens mon dévot, voue-moi ton adoration, et ainsi étant pleinement absorbé en moi, certainement tu viendras à moi. Ça, c'est la Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 34. Alors, c'est ce que Krishna veut. Alors, pour les dévots, la relation avec Krishna est toujours favorable. Maintenant, la question du jour. Est-ce que les non-dévots ont une relation avec Krishna?
Inconsciemment, oui.
Indirectement, oui.
Sans le savoir, oui.
Bon, tout le monde dit oui. Alors, quelle est la réponse?
Mais
Plus
pas
d'explications.
direct, en fait. Elle n'est pas directe. Mais comme Krishna est omniscient et omnipotent, on est quand même toujours, même inconsciemment, rattaché à Krishna.
Tout est son
Oui,
ses
mais
énergies.
alors, la relation avec Krishna pour les non-dévots, elle est sous quelle forme?
Matériel.
OK, si on dit matériel,
Ben, lié aux énergies de Krishna.
on demande plus d'explications.
Ben, c'est pour satisfaire ses sens corporels et non l'énergie spirituelle qui est l'âme, la conscience divine dans nous. C'est plutôt l'énergie, on veut satisfaire l'énergie matérielle du Seigneur qui est de goûter, toucher, tout ça, c'est des énergies
Oui,
sur une
mais
base.
là, OK. Moi, je joue l'avocat du diable un peu, OK. C'est pas une mauvaise réponse, mais on demande du point de vue de Krishna. Ils ont une relation avec Krishna, ça c'est sûr. Mais dans quelle forme? On demande pas qu'est-ce qu'ils font. On demande dans quelle forme ils ont une relation avec Krishna.
À la forme ignorance, non?
Vous le savez, la réponse, vous la savez déjà, mais vous mettez pas le doigt dessus en ce moment.
Sous quelle
Donc,
forme?
on repose le contexte et on dit, OK, maintenant quelqu'un qu'on connaît, là, dans notre entourage, on donne pas de nom. Et tout le monde a un entourage. Alors, dans l'entourage, comme vous trois, là, nous quatre, on a chacun un entourage. Alors, ça veut dire ça avec nous, autour de nous, puis aussi dans la société en général, il y a plein, disons, d'autres personnes. Et on dit à toutes ces personnes-là, vous avez tous et toutes une relation avec Krishna. Alors là, il y aura une levée des boucliers. Puis là, les gens vont dire, ah, ça c'est votre religion, ça c'est votre opinion, ça c'est vos croyances, mais nous, on ne croit pas à ça. Vous voyez la chose? Mais on dit, vous avez tous et toutes une relation avec Krishna, et sous quelle forme? Ah, c'est comme si on dit, si quelqu'un dit, moi, je crois pas à Krishna, à ce moment-là, on peut lui dire, mais sous quelle forme tu vas finir par croire à Krishna?
Physique.
Un petit pas d'en avant, 1 millimètre. Un dévot voit la forme en question à tout moment. Ça n'a pas été Donc, on n'a pas touché à ce point-là dans ce qui a été...
Ah, la forme
impersonnelle.
Impersonnelle. Non.
Donc, un autre pas d'un millimètre en avant, là.
Une forme... je sais pas si c'est le bon mot, mais j'ai comme un... Une forme... Ben, je sais, pervertie, est-ce que c'est un mot un peu trop peut-être dur? Je sais pas.
Ça peut être un autre millimètre en avant. Et tout le monde voit Krishna. On a dit tantôt, les matérialistes voient Krishna sous la... sont intéressés juste par ses énergies. Les dévots voient Krishna comme la source énergétique, la source de toutes les énergies. Alors, en ce qui concerne le monde matériel, tout le monde a une perception du monde matériel. Tout le monde a des sens. Mm-hmm. Pas juste les êtres humains. Tout ce qui vit a des sens. En ce qui concerne les hommes, par exemple, l'être humain, comme Prabhupada dit, a une conscience développée. Avec cette conscience développée-là, il peut l'utiliser pour avoir une certaine perception de la réalité, mais pas nécessairement pousser sa perception au point de voir Krishna. Alors, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il voit?
Maya?
Il voit Maya, oui. Mais qu'est-ce qu'il
voit? Il se voit détaché du Seigneur, il se voit détaché du Seigneur.
Ben oui, il voit même pas le Seigneur. Comment il peut être conscient qu'il va être détaché du Seigneur? Il voit pas. Mais il est obligé de voir le Seigneur, mais sous une forme. Parce que, mettons, tu prends n'importe quel matérialiste, tu l'envoies au temple, tu l'envoies de force dans le temple, il va voir les Murtis, encore là, il va dire que lui, il croit pas à ça. Alors, à quoi doit-il croire? Puis il va, même s'il va à l'église non plus, ça c'est déjà un miracle qui entre déjà dans l'église, là. Puis qu'est-ce qu'il comprend une fois qu'il est rendu dans l'église? Il comprend pas grand-chose non plus. Alors qu'est-ce qu'il ne voit pas? Ou qu'est-ce qu'il devrait voir et qu'il voit? Il le voit, mais il n'y a pas l'intelligence pour comprendre. Alors, qu'est-ce qui manque à l'appel?
La connexion.
Il n'y a pas besoin de connexion parce que les yeux physiques le voient.
Des yeux spirituels?
Même pas. Oui, ça prend des yeux spirituels, mais c'est... OK, là, on va arrêter de tourner autour du pot, là. Mais il ne voit pas l'influence du temps qui est Krishna.
Okay.
Krishna, il le voit tous les jours sous la forme, l'influence du temps, mais il ne voit pas.
Mm-hmm.
Alors, comme Krishna explique dans Bhagavad Gita, l'âme incarnée est passée progressivement de la naissance à l'adolescence, puis à la vieillesse. Pareillement, au moment de la mort, elle prend un nouveau corps. Ça, ils ne voient pas ça avec leur propre corps. Ils pensent qu'ils vont vivre tout le temps.
Mm-hmm.
Ils ont des plans sans fin. Mais autour d'eux, ils voient tous les jours qu'il n'y a rien qui reste pour l'éternité dans le monde matériel. Alors, comme par exemple, ici à Montréal, on a un joyeux problème. On a un joyeux problème, on en a plusieurs. Des hôpitaux qui sont vétustes et qui font l'objet de, disons, comment on peut dire, d'une planification de réparation ou de construction de nouveaux hôpitaux, si ça arrive. On a les routes qui sont en piteux état, qui sont les pire que les autres routes à travers le Canada. Évidemment, ça, ils disent pas, là, mais ils ont pas le même climat qu'au Québec, en passant, là, tu sais. Ça peut s'expliquer. Alors, peu importe les détails, mais sous l'influence du temps, c'est une forme de Krishna que les matérialistes ne voient pas, même si elle est flagrante devant leurs yeux à tous les jours. Alors, c'est aussi simple que ça. Alors, le Srimad Bhagavatam va même au point de dire, ça c'est dans le deuxième chant du Srimad Bhagavatam, que il ne voit pas l'âme spirituelle. Alors, ils pensent que leur relation est permanente avec les relations corporelles. Alors, ils vont s'identifier. Moi, je suis un parent d'un tel, un tel. Puis ça, c'est comme si ça va durer toujours. Mais en fait, ça dure pas. Ça va pas durer toujours. Et ça, c'est manque de ce qu'on appelle atma-tattva, de compréhension de l'âme spirituelle. Le corps matériel est comme un vêtement. Et comme Krishna dit, quand le vêtement est usé, on prend un nouveau vêtement. Alors, de la même façon, quand le corps est usé, qu'il ne fonctionne plus, on est obligé de prendre un nouveau corps. Et il n'y a rien qui dure. C'est la façon que le monde matériel est fait. Il n'y a rien qui dure dans le monde matériel. Alors, c'est comme se retrouver dans la poêle à frire. Alors, tu es en train de frire. Quel côté tu veux frire? Côté gauche ou côté droit? En haut ou en bas? Ça va chauffer, ça va brûler d'un côté ou de l'autre. Alors, ça, c'est la vie matérielle. Peu importe quel bord on se retourne, il y a la souffrance. Et en plus, on peut pas rester là non plus. On est obligé de changer de position. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste juste Krishna, à devenir conscient de Krishna, puis prendre refuge de lui, parce qu'à part ça, tout est arrangé d'une façon qu'il n'y a rien qui va durer. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? C'est assez pessimiste, hein, la vie matérielle.
Non, ah. Mais c'est sans te couper, excuse-moi, c'est le type de planète aussi. On est dans la planète Terre, c'est justement la planète où il y a tout ça. Et il faut pas vouloir y rester, entre guillemets. Même si les desseins de Krishna et de, on, mais notre objectif, c'est pas de vouloir continuer à tourner en rond comme ça, à se mordre la queue, en fait. Comme un chat ou un chien qui se mord la queue, c'est, il faut regarder plus haut, il faut regarder vers Krishna, qui est la source de tout.
Ouais. OK. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. Alors, on va continuer. OK. Point 8, point 3, Virginie. Pas Virginie, Ananda, s'il vous plaît.
Avec plaisir, Hare Krishna. 8.3. Ni le yagna, la recherche philosophique, ni le yoga, la recherche des pouvoirs surnaturels, et encore bien moins le karma, l'action intéressée, ne permettent de le faire. Ne permettent de faire quoi? D'approcher le Seigneur. Qu'ont en temps commun le yagna, le yoga et le
Gyana,
karma? Gyana, c'est ça que je me disais. Merci. Qu'ont en commun le gyana, le yoga et le karma? Le sens de l'ego ou l'identité des personnes concernées. Il y a deux sens que l'ego puisse avoir, un matériel et l'autre spirituel. L'ego matériel sous-entend les notions de moi et ce qui est à moi. L'ego spirituel sous-entend l'identité éternelle, véritable de tout être vivant, que Srila Prabhupada décrit parfois par les mots « Aham Brahmashmi »,« Je suis le serviteur de Krishna ». L'ego spirituel dénote une différence d'avec l'ego matériel, car il se résume à moi, serviteur éternel de Krishna, et ce qui n'est pas à moi, car tout appartient à Krishna. Quant au dhyana, yoga et karma, on y trouvera une part de faux ego de celui qui les accomplit, exprimé sous la forme de moi et ce qui est à moi. Quant à la bhakti ou service de dévotion, il y a ego aussi. On ne peut éradiquer le sens de l'ego dans quelque entreprise que ce soit. Mais dans le cas de la bhakti, le sens de l'ego est pur. Et c'est lui qui soutient l'action. Aham Brahmashmi. En termes de bhakti, Aham Brahmashmi signifie « je suis le serviteur de Krishna » et non simplement de la manière habituelle de traduire par « je ne suis pas ce corps ». Je ne suis pas ce corps, certes, mais je suis aussi autre chose de positif, c'est-à-dire une âme spirituelle. Et l'âme spirituelle est éternellement subordonnée au suprême. En d'autres mots, l'âme est serviteur ou servante de Dieu. C'est ainsi que l'on arrive au pur ego engagé dans le service de dévotion. C'est l'ego pur utilisé à bon escient, humble, enthousiaste, soumis à Dieu, non possessif. Alléluia! À l'opposé de l'ego matériel, on trouve dans le service de dévotion Krishna et ce qui est à Krishna. Krishna est le propriétaire et bénéficiaire de tout ce qui existe. Qui suis-je donc par rapport à Krishna? Je suis son éternel serviteur. Tel est l'élément clé de motivation dans le service de dévotion. Hormis se penser un serviteur de Dieu par nature, croire à ne tout faire matériellement que pour soi-même, le tout par faux ego pour moi, 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 signifie l'ignorance de son véritable intérêt personnel. C'est un sujet qui a été savamment élaboré par Prahlada Maharaj dans le Srimad Bhagavatam 7.5.31, où ce dernier présente à son père en toute franchise la vision spirituelle de l'existence. Nate vidus varta gatim i vishnum dura saya yebayir arta maninaha anda yatandair upaniyamanas te pisha tantriam uru damni bada. Na ne pas, te il, vidu connaissent, zva arta gatim, le but ultime de l'existence ou leur véritable intérêt personnel. Hi, en vérité, Vishnum, Vishnu et son royaume. Durasaya, ayant l'ambition de jouir de cet univers matériel. Ye, qui, Bahi, les objets externes des sens. Alta, Manina, considérant comme ayant de la valeur. Anda, des aveugles. Yata, comme. Andai, par d'autres aveugles. Upaniyamana, conduit. Te, il, api, bien que. Isha Tantriam, aux cordes, loi de la nature matérielle, Uru, faite de traits robustes, Damni, filin, Badaha, lié. Les êtres hantés par le désir de jouir de l'existence matérielle, et ayant dès lors accepté pour maître ou pour gourou un autre aveugle également attaché aux objets d'essence, ne peuvent comprendre que le but de la vie consiste à retourner dans leur demeure originelle pour y servir Dieu, Vishnu. De même que des aveugles guidés par un autre aveugle s'écartent du chemin et tombent dans un ravin, les hommes attachés à la vie matérielle qui se laissent guider par d'autres hommes, eux aussi d'esprit matérialiste, se voient liés par les cordes très robustes de l'action intéressée et poursuivent sans fin leur existence matérielle, assujettie aux trois formes de souffrance. Teneur et portée. Comme il doit toujours y avoir des divergences d'opinion entre les Asuras et les Bhaktas, Hiranyakashipu, se voyant critiqué par son fils, n'aurait pas dû être surpris que ce Prahlad Maharaj n'approuvait pas son mode de vie. Cependant, Hiranyakashipu entra dans une extrême colère et voulut s'en prendre à son fils pour avoir déconsidéré son précepteur ou maître spirituel issu d'une famille de brahmana, celle de l'illustre Acharya Sukacharya. Le mot Sukra signifie semence et Acharya précepteur ou gourou. Les gourous ou maîtres spirituels par hérédité ont, par, ont partout existé depuis des temps immémoriaux. Mais Prahlad Maharaj se refusait à accepter un gourou de ce genre ou à recevoir des instructions de lui. Le véritable gourou est Kshatriya, c'est-à-dire qu'il doit avoir entendu ou reçu le parfait savoir par l'intermédiaire d'une filiation spirituelle parampara. C'est pourquoi Prahlada Maharaj n'accordait aucune valeur à un maître spirituel héréditaire. Cette sorte de gourou n'éprouve aucun intérêt pour Vishnu. Au contraire, ils aspirent à la réussite matérielle. Bahi Ata Maninaha. Le mot Bahi signifie externe. Arta, intérêt, et Manina, prenant très au sérieux. D'une manière générale, on peut dire que la quasi-totalité des hommes ignore l'existence du monde spirituel. La connaissance des matérialistes est restreinte aux limites des quelques 6 milliards de kilomètres que mesure le diamètre de ce monde matériel. Situé dans la partie obscure de la création, ils ignorent qu'au-delà de cet univers se trouve le monde spirituel. À moins d'être un dévot du Seigneur, personne ne peut comprendre l'existence du monde spirituel. Les gourous ou précepteurs, uniquement intéressés par l'univers matériel, sont ici qualifiés d'aveugles, andha. Ces aveugles peuvent bien sûr guider d'autres aveugles dépourvus de toute connaissance véritable concernant la nature de l'existence en ce monde, mais ils ne sont pas reconnus par des bhaktas comme Prahlada Maharaj. Ces maîtres aveugles, préoccupés par le monde externe, matériel, restent à jamais prisonniers des puissants liens de la nature matérielle. Évidemment que Hiranyakashipu, asura qu'il était, n'apprécia nullement les propos de son fils Prahlada. Au contraire, il s'anima d'une vive colère au point de vouloir le tuer. Tel est le comble de la stupidité due à l'ignorance de la moindre notion sensée de valeur spirituelle de l'existence. Un affrontement entre père et fils allait s'en suivre, avec pour différence que Prahlada avait entièrement confiance en la protection du Seigneur malgré la hardiesse de son père. Son père essaya par tous les moyens de le tuer, mais grâce justement à la protection du Seigneur, rien ne put lui arriver qui lui fût fatal. Tel est le mystère de la protection du Seigneur à l'égard de son dévot. Celle-ci demeure toujours aussi invisible et inconcevable pour les matérialistes déterminés tout autant à le rester. Voici de plus un extrait d'une classe de Srila Prabhupada sur le Srimad Bhagavatam 1.2.9 prononcé à Vrindavan. Oui, si Krishna vous tue, personne ne peut vous protéger. Et si Krishna vous protège, personne ne peut vous tuer. Rake Krishna, Mareke, Mare Krishna, Rake, Rakeke. Telle est la formule.
Jai, merci beaucoup.
Jai.
Haribol.
Haribol.
Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions?
Oui. Alors, le corps, Dans nous, on a toujours ces deux petites voix-là qui nous disent, bon, un dit, vas-y, tu vas être fun, l'autre dit, c'est pas bon pour toi. On a toujours ces deux voix, t'as le faux ego, puis le vrai toi, le vrai ego. Et alors, ça veut dire que on a deux conducteurs dans notre corps, on a comme deux chauffeurs. Si on donne le pouvoir au chauffeur du faux ego, du matériel, lui va travailler pour gratifier ses sens corporels. Et après, si on a le contrôle et le chauffeur spirituel prend le dessus, là, toutes nos actions qui changent pas dans le fond parce que tout est par la volonté de Dieu. Alors, c'est toutes des actions spirituelles. Ça veut dire qu'on travaille pour servir le Seigneur. Alors, on est deux dans ce corps, dans le fond. C'est ça, ma question, ça serait.
Bon. Ça revient. OK. On va le prendre sous un autre angle. OK? À savoir, il y a deux énergies de Krishna. Il y a l'énergie matérielle et l'énergie spirituelle. Alors, tel que la Bhagavad Gita nous l'enseigne, les Mahatmas, ça c'est dans le chapitre 9 de la Bhagavad Gita, les Mahatmas, les grandes âmes, sont sous l'influence de l'énergie spirituelle. Et Prabhupada dit, sous cette influence-là, il n'y a qu'un seul désir, c'est de vouloir servir Krishna. Et sous l'influence de l'énergie matérielle, il y a juste un seul désir, c'est d'essayer de... On se lance à la poursuite, en fait, de mille et un désirs. Alors, comme c'est dit dans la Bhagavad Gita, dans le deuxième chapitre, ceux qui sont situés sur la voie de la spiritualité n'ont qu'un seul but, ne poursuivent qu'un seul but. Tandis que ceux qui n'ont pas cette conscience divine, pour eux, leur intelligence emprunte mains sentiers obliques. Ça, c'est dans la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 40-41, dans ce coin-là. Alors, on a toujours ce choix-là. Soit on se dit, OK, je me mets sous l'influence de l'énergie spirituelle, et sous l'influence de l'énergie spirituelle, il n'y a pas de place pour agir autrement que d'une façon dévotionnelle. Et autrement, à ce moment-là, on oublie notre relation avec Krishna, puis on tombe dans une forme ou une autre de recherche de satisfaction des sens, incluant le mental aussi.
Mais qui nous fait faire cette action-là, dans nous, là? Si on fait une action vers Dieu, service dévotionnel vers Dieu, ou service corporel pour le physique, qu'est-ce qui... On est là, soit à droite, soit à gauche, mais on n'est pas deux, on est un, je veux dire, dans tout ça, puis c'est seulement l'oubli qui nous met dualité, puis le un, c'est que quand on est conscient, qu'on est spirituel, le un disparaît, l'oubli disparaît. C'est pas le...
Krishna satisfait les désirs de chacun. Alors, si on est en train, mettons, là, d'être, on le dit en québécois, là, d'être pogné entre deux feux, on est partagé. On pense que c'est ni un ni l'autre, en fait, ou c'est, on voudrait pas que ce soit un, on voudrait que ce soit l'autre, mais on donne la marge de manœuvre à l'énergie matérielle d'exercer son influence. Alors, tout est basé sur le désir, tout est basé sur la sincérité du désir aussi, d'un dévot. Alors, tout ça, c'est décrit aussi dans la Bhagavad Gita. Krishna dit, dans la proportion où on s'abandonne à moi, moi, je récompense en conséquence. Alors, dans la Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 14, Krishna dit que cette énergie matérielle est insurmontable, mais quelqu'un qui s'abandonne à moi peut facilement en franchir les contraintes ou les forces, si on peut dire. Alors, il y a une question d'abandon à Krishna. Et comment on s'abandonne à Krishna? Ben, on s'abandonne d'abord au maître spirituel, qui est le représentant de Krishna. Alors, on fait un vœu. On prend des vœux par rapport au maître spirituel. Alors, il y a les quatre principes régulateurs. Il y a le chant du Mahamantra. Puis, s'engager dans le service de dévotion. Dans le service de dévotion, il y a 9 activités. Il y a 9 méthodes. Quelqu'un pourrait dire, là, mettons, Joe Blow Bhakta, qui connaît pas grand-chose, entre guillemets, il pourrait dire, « Ah, quoi? Il y a juste 9 activités dans le service de dévotion, c'est pas assez. » Ça serait stupide de dire ça, là. Pourquoi? Parce qu'il y en a 9, puis il n'y en aura jamais plus que 9, puis il n'y en aura jamais moins que 9. Il y a 9 activités dévotionnelles, et ces 9 activités-là, c'est les activités du monde spirituel. Quand on les connaît dans le monde matériel, juste ces 9 activités-là, il y en a assez pour nous tenir occupés pendant 24 heures. 365 jours par année. Juste 9 activités. Alors, par exemple, la première, c'est d'écouter ce qui a trait à Krishna. Ensuite, parler de Krishna. Puis ensuite, se souvenir de Krishna. Juste là, il y en a assez pour se tenir occupé. Mais, comme on n'est pas très avancé en conscience spirituelle, Prabhupada explique ça aussi, que on a besoin d'engagement pratique dans le service de dévotion. Alors, tu sais, genre, là, le dévot, mettons, il y a un dévot que lui, c'est un conducteur de camion, de métier. Avant d'être dévot, il conduisait des camions. Pendant qu'il est dévot, pensez-vous qu'il aimerait pas conduire un camion pour Krishna? Puis dans le mouvement, il y a pas grande opportunité de conduire des gros camions, là, tu sais, comment on dit, des vannes, comment on dit ça en français, donc? Une vanne, un 53 pieds, là. Un trailer en anglais, oui. Alors, une grosse vanne pour Krishna. Alors, il y a un dévot qui fait ça dans le mouvement. C'est les dévots qui ont une grosse vanne, là, qui amènent le Ratha Yatra à travers l'Amérique du Nord. Alors ça, le dévot qui conduit ça est aux oiseaux, là. Il veut conduire une belle grosse vanne, puis il y en a une belle grosse vanne pour charrier le chariot du Seigneur Jagannath, toutes les tentes pour les festivals de Ratha Yatra. Qu'est-ce que tu vas avoir mieux que ça? Lui, il est comblé. Il aime conduire. Il aime la route. Il aime voyager. Puis en plus, il y a la vanne du Seigneur Jagannath. Qu'est-ce que tu veux de mieux que ça? C'est l'extase, ça. Alors, comme diraient les Français, c'est top. C'est top, ça. Alors, pour d'autres dévots, il faut que ça soit d'autres choses. Il faut que chaque dévot ait un engagement pratique au service de Krishna. Il y en a, par exemple, des dévots qui aiment faire de l'adoration des déités. Alors, s'ils sont dans le temple et ils font du deity worship, ils sont aux oiseaux avec ça. Il y en a d'autres que c'est pas ça. C'est des dévots, mais c'est pas deity worship. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ça va être probablement d'aller prêcher dans la rue, rencontrer du monde, faire des conférences, organiser des festivals. Puis, il y a d'autres dévots, ils sont pas plus intellectuels qu'il faut, mais ils sont disposés à faire des services pratiques.
Mm-hmm.
Alors, il y a des dévots qui, il y en a pas beaucoup, disons, il peut en avoir plein de ce genre de dévots-là, mais par exemple, au temple, tu vas avoir un dévot qui est le dévot désigné. Lui, il lave la salle du temple tous les jours. Tu sais, ils vont pas, en général, au temple, là, tout le monde a sa tâche, et puis ils vont pas passer leur temps à se trouver, à faire des téléphones à tous les jours. Hey, ça me prend quelqu'un pour laver la salle du temple. Je m'excuse, là. Ils vont en trouver un qui veut le faire, qui va se consacrer à cette tâche-là, puis ça va se faire. Et c'est correct comme ça. Alors, il y en a un dévot comme ça au temple. Et puis c'est aussi simple que ça, là. Ça prend des dévots comme ça. Mettons, ils font un grand festival au temple, puis il y a de la nourriture partout qui traîne sur le plancher quand c'est fini. Ils vont balayer tout ça, ils vont ramasser tout ça, puis ils vont passer à la vadrouille. Et puis, that's it, le service est accompli. On attend le prochain festival. Puis à tous les dimanches, il y a une fête du dimanche au temple. Alors, c'est la même chose. Une fois que les 200 invités sont partis, faut nettoyer la salle, faut remettre ça propre, faut faire la vaisselle, des pots, etc. Ça, c'est des services pratiques. Et Prabhupada dit, quand on lave le temple, qu'est-ce qu'on lave en même temps?
Notre cœur.
Notre cœur. Alors, on lave son cœur en lavant les affaires de Krishna. Alors, c'est bien ça aussi, même si on se rend pas compte. Le maître spirituel le dit, c'est ça qui se passe. Ça, c'est la réalité pour un dévot. Voir les choses à travers les enseignements de son maître spirituel. Et that's it, that's all. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, si on est un petit peu introspectif, un petit peu observateur, tu sais, comme en France, ils ont un magazine, si ça existe encore, là, pas sûr que ça existe encore, mais en tout cas, à l'époque, quand j'étais là, il y a ce magazine qui s'appelle Le Nouvel Observateur. Alors, le dévot, lui, il est observateur. Il doit être observateur, de voir Krishna dans n'importe quoi. Et comme Krishna dit, pour celui qui me voit en tout et qui voit tout en moi, je ne suis jamais perdu. Comme pour moi, lui aussi n'est jamais perdu. C'est dans la Bhagavad Gita au chapitre 6, Bhagavad Gita. Alors, le dévot doit être observateur. Et évidemment, la première des choses qui devrait être observateur, c'est de savoir, justement, comme on a dit aujourd'hui, Krishna est présent dans son cœur. Pour le dévot, juste la présence de Krishna partout, c'est assez pour le motiver à être conscient de Krishna. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Il y avait une histoire d'un gourou et son disciple, et ses disciples, pas juste un disciple, mais ses disciples. Et puis le gourou demande aux disciples d'aller voler quelque chose en quelque part, puis de revenir avec l'objet volé. Alors, X, Y, il arrive ci, il arrive ça. Puis finalement, il y en a un disciple qui revient avec les mains vides. Alors, le gourou demande comment ça se fait. Il a désobéi au gourou. Et le disciple répond, savez-vous qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, je pouvais pas voler parce que Krishna était présent partout. Alors, je pouvais pas voler. Alors, le gourou était très satisfait de ce disciple-là. Alors, ça doit être la mentalité d'un dévot, qu'il n'y a pas juste le niveau matériel qui est la réalité. Il y a la réalité de spirituelle qui, en fait, est omniprésente. Tout ce qui existe a une relation avec Krishna. Alors, les arbres, tu sais, mettons, un dévot regarde un jardin. Mettons, le jardin botanique de Montréal. Mais ça, un jardin botanique, c'est juste un spectacle, là. Mais quand même, il y a des êtres vivants là-dedans qui composent le jardin botanique. Mais mettons, le dévot est invité chez Pierre-Jean-Jacques. Puis là, il voit, Pierre-Jean-Jacques a un beau jardin chez lui. Puis là, il est tout fier. Hey, moi, je fais pousser des carottes, puis des haricots, puis peut-être même des cultures qui sortent de l'ordinaire, là. Et puis, de telle espèce, puis de telle provenance, patati patata. Mais le dévot, dans le fond de son esprit, le dévot, qu'est-ce qu'il pense? Il dit, c'est bien beau le jardin, là, mais si c'est pas offert à Krishna, à quoi ça sert? Alors, il y a cette dimension-là de perception d'un dévot, qu'en fait, tout devrait être utilisé pour faire plaisir à Krishna. Sinon, c'est pas parfait. Et Prabhupada a expliqué aussi dans ses livres, même les yogis, comme aujourd'hui on lit, il y a les yogis, il y a les gyanis, et il y a les bhaktas. Les trois, Prabhupada dit, ensuite il y a les karmis. Alors, ça c'est quatre genres d'êtres humains. Il y en a trois sur les quatre, sont jugés des spiritualistes. Alors, les gyanis, les yogis et les bhaktas. Les karmis sont des acteurs intéressés. Ils sont intéressés à jouer du fruit de leurs actes. Et Prabhupada explique, même pour les gyanis, pour les yogis, s'ils veulent avoir le succès, il faut qu'ils ajoutent la bhakti à leurs activités ou à leur conscience. C'est lorsqu'il y a bhakti que là on peut parler de perfection, ou du moins commencer à parler de perfection. à cause de la bhakti. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Juste un petit quelque chose. On parlait que rien ne bouge à la volonté de Krishna. Tout, même pas une feuille.
Ouais.
Alors, en vérité, je pense que j'ai déjà dit, on vit dans la volonté de Krishna constamment. Autour de nous, on est dans sa volonté. Si le vent bouge et on sent l'air, c'est la volonté de Krishna. Si ma bouche bouge, c'est la volonté de Krishna. Vraiment, on est dans totalement à 100%, rien ne bouge sans sa volonté. On
D'accord.
est dans, c'est ça?
Ouais, je vais exprimer ta pensée d'une autre façon, OK? Au lieu de dire la volonté de Krishna, on va dire, en fait, c'est ce qui se passe, OK? C'est avec la permission de Krishna. Alors, Krishna donne la permission qu'on puisse, par exemple, bouger notre main, marcher, parler. Mais si Krishna ne donne pas sa permission, à ce moment-là, on va être paralysé.
C'est quoi la différence? Volonté, permission?
La volonté, disons, du point de vue de Krishna, la volonté veut dire il dit oui. OK? Donc, si nous, on veut parler, lui, Krishna, supposons qu'il a décidé déjà d'avance. OK, lui, il aura le don, le pouvoir de parler toute sa vie. Si sa durée de vie, mettons, c'est 70 ans, ben, il va parler pendant 70 ans. Il dira ce qu'il voudra, mais il va avoir le don de parole pendant 70 ans. C'est déjà réglé d'avance. Mais si Krishna... Ça veut dire que Krishna a donné la permission pour ça. C'est dans le karma, dans la destinée de l'être. Et il y en a des êtres, des hommes, supposons, à un moment donné dans leur vie, ont un grave accident, et là, ils deviennent paralysés. Soit la parole, soit le l'ouïe, ou soit les jambes, soit un bras, soit une main. Et ça aussi, c'est dans le karma. C'est d'une façon ou d'une autre, Krishna, disons, a décidé, ben, d'après son karma à lui, c'est ça qui va lui arriver. Il mérite que c'est ça qui lui arrive. Et dans un cas comme un autre, le dévot va considérer, le dévot, lui, est soumis. Alors, il voit ça, ben ça, c'est la volonté de Krishna. À quoi c'est dû, on ne le sait pas. C'est très difficile, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, de comprendre les complexités de action et réaction. Très difficile, c'est d'expliquer dans la Bhagavad Gita. Alors, une âme réalisée, un pur dévot de Krishna, eux, ils ont accès au pourquoi, comment... Comment ça se fait que y arrive telle ou telle chose? Ils en savent plus que la moyenne des êtres humains ordinaires. Alors, comme par exemple, on a Narada Muni qui lui va expliquer, par exemple, au chasseur, Mrigari, le chasseur. Le chasseur tuait des êtres vivants à moitié, il les faisait souffrir. Il aimait ça les voir à moitié mort. Donc, à moitié vivant, à moitié mort. Et il souffrait avec beaucoup de douleur. Alors, Narada Muni est venu le voir, puis il lui a dit, puis il lui a montré par ses pouvoirs mystiques qu'est-ce qu'il attend dans le futur comme karma. Alors, l'autre, quand il a vu ça, il a eu peur, là. Il a changé son fusil d'épaule. Il veut pas que ça lui arrive toute cette souffrance-là. Alors, un dévot est comme ça. Il voit la souffrance et il voit qu'il y a une explication à la souffrance. Et pour un dévot, si la souffrance vient de son côté, et ça va finir par arriver une de ces bonnes journées, le dévot, lui, il va avoir une perception à savoir c'est la volonté de Krishna et par la grâce de Krishna, je mériterais 1000 fois pire que qu'est-ce qui m'arrive là. Krishna a réduit au minimum la punition que j'aurais dû connaître. Pourquoi? Parce que je me suis engagé dans son service. Alors, Krishna minimise le karma dans ce temps-là. Alors, pour un dévot, c'est expliqué que la souffrance, ce n'est pas dû au karma. C'est dû à une miséricorde de Krishna. Alors, le dévot, dans cette façon-là, il ne se plaint jamais, il est toujours content, même si les circonstances sont difficiles. Pour le dévot, le bonheur et détresse, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que le dévot, lui, tout ce qui compte, c'est être conscient de Krishna. Ça, c'est un dévot, ça. Alors, pour un dévot, il est affranchi des dualités du niveau matériel. Bonheur, détresse, mettons, profit, perte, honneur, déshonneur, etc. Alors, ça c'est dans la Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 27. En sanskrit, te dvandva moha nirmukta. Moha veut dire l'illusion. Dvandva, les dualités de l'illusion. Le dévot est affranchi de ça. Pourquoi? Parce qu'il s'abandonne complètement à Krishna. Alors, il n'y a pas de, comment on peut dire, de mouvement de bascule en avant, en arrière, en avant, en arrière. Oui, je veux être avec Krishna. Non, je recule. Je regarde, ça va moins bien. Là, je m'en vais vers Krishna. Il est affranchi de la dualité qui est propre à l'énergie matérielle. Et ça, c'est la grâce de Krishna. Alors, c'est pourquoi la vie spirituelle s'est décrite comme aussi étroite que la lame d'un rasoir. La lame d'un rasoir. Alors, un petit écart à côté, et on se coupe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Chanter Hare Krishna, prier Krishna, et puis demander à Krishna de nous engager. C'est ça que ça veut dire, le mantra Hare Krishna. Ça veut dire, veuillez m'engager à votre service. Ô Krishna, et ô énergie spirituelle de Krishna. Hare, Hare. Hare, Hare veut dire invoquer l'énergie spirituelle de Krishna. Alors, si on chante avec sincérité, le Mahamantra va agir. Et puis, on demande à Krishna d'avoir sa miséricorde. Et avec sa miséricorde, on peut, disons, progresser dans une conscience spirituelle. Est-ce que ça répond aux questions? C'est ça. À un moment donné, là, disons, par la grâce de Krishna, comme on a lu aujourd'hui, c'est Krishna qui libère de l'emprise de l'énergie matérielle. Alors, Krishna va dire, c'est lui qui dit à l'énergie, à Maya, OK, lui, tu y touches pas, là. Tu le laisses tranquille. Puis l'énergie matérielle va obéir. C'est comme ça, là. Tu sais, si on veut être, là, je vais faire une petite blague, là. Si on veut être un dévot, mais un dévot cowboy, t'arrives au temple avec ton revolver, ta grosse ceinture, puis tes balles, puis t'es un peu cowboy, un peu macho sur les bords, tu sais, mettons, t'arrives dans le temple, puis tiens, pow, c'est moi qui est arrivé dans la place. En fait, il n'y a pas besoin de faire ça. C'est pas nécessaire. Alors, au contraire, le dévot vraiment qui est abandonné à Krishna va laisser faire la foutue ceinture de cowboy puis le chapeau de cowboy. Ça, c'est bon pour aller au soleil, au Ratha Yatra, c'est correct, là. Mais il n'y a pas besoin de ceinture, de revolver de cowboy puis faire le gros spectacle. Hey, monsieur, je sais pas, mais Lucky Luke numéro 1 vient d'arriver au temple. Non, c'est pas nécessaire. Un dévot doit être abandonné à Krishna dans l'âme. Et tout le reste suit. Et c'est tout ça. Il y a un dévot, là. J'ai lu ça ce matin sur Internet. Il y a un dévot en Inde qui a publié un livre. Ça s'appelle voyons donc. Purity and Self-Control. La pureté et la maîtrise de soi. C'est un livre qui fait à peu près, mettons, j'ai jamais vu ce livre-là, c'est nouveau. Mettons à peu près un pouce d'épais. Et tous les commentaires des dévots aînés qui ont lu ce livre-là sont tous favorables. Mais c'est ça, le service de dévotion. C'est un livre qui élabore sur les quatre principes qu'on doit suivre. Et puis, moi, je l'ai jamais lu, le livre, là. Je viens d'apprendre ça, là. Sûrement, le chant du Mahamantra, mais, disons, sur Internet, il montre, il y a juste comme une page qui est ouverte. Là, tu peux lire le texte. Ça a l'air vraiment, vraiment bon comme livre. Et ça doit sûrement être très encourageant pour les dévots qui lisent ce genre de livre-là. Alors, c'est ça. C'est nouveau sur le marché. C'est en Inde que ça a été publié, ce livre-là. Purity and Self-Control. Si ma mémoire est bonne, là, mais la pureté y est pour quelque chose. Parce que Prabhupada, il disait, purity is the force. La pureté, c'est la force dans le mouvement pour la conscience de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Alors, c'est ça qui est ça pour aujourd'hui. Et je vous encourage tous et toutes, ceux qui sont à Montréal. Évidemment, il y a juste Ananda qui est à Montréal. Et
non, même plus.
Même plus?
Et non, j'ai déménagé au Nouveau-Brunswick.
Ah, oh, je savais pas ça, là. Ah, bon.
Surprise!
Ah, bon. All right.
Je sais pas pour combien de temps, mais voilà, ça fait du bien. Un petit peu.
OK. Bon, ben, je n'ai plus rien à dire. Non, mais j'allais dire, c'est Rata Yatra de Montréal le prochain week-end. Alors, les 6 et 7 septembre, au parc en Grignon. C'est la première fois qu'ils vont faire un Rata Yatra là-bas. Je pense que ça devrait être bien parce que il y a beaucoup de verdure, là, au parc en Grignon. C'est grand. Ça devrait bien aller. Et puis voilà, je voulais juste dire ça. Je pensais qu'Ananda aurait été là, mais...
Oui, je l'ai su un peu tard que ça avait été, placé à ce moment-là.
Ah, OK. Ça sera pour une autre fois. Peut-être.
C'est ça. Exact.
Si Krishna le veut.
Si Krishna le veut. Exactement.
Ah, la Bhaktine le voudra aussi.
Oui.
Ah, voilà. OK. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu.
Merci beaucoup à tous. Deux semaines, on se voit.
Ouais, dans deux semaines.
Non, on se voit mercredi.
Ah oui, c'est ça. Dans deux semaines pour le Ishopanishad.
C'est ça.
Mais le 3 septembre, mercredi qui s'en vient, on commence les cours sur Upadeshamrita.
Oui.
À quelle heure?
À 19h.
Parfait.
Puis ça va être mentionné comment? Par courriel ou?
C'est sur le site Namahata.
C'est okay. Déjà en ligne, ouais.
C'est déjà merci. En ligne, là. C'est oui. la même façon que vous regardez pour ce cours-ci. Il y a un lien. Pour le 3 septembre. Alors, on se retrouve avec deux cours, là. Un hebdomadaire, le mercredi soir, de 19h, mettons, à 20h, quelque chose comme ça. Et puis, aux deux semaines, Ishopanishad, le samedi, aux deux semaines.
OK.
Alors, on va voir comment ça va aller, là, le Upadeshamrita.
Moi, je vais m'excuser parce que je prends l'avion mercredi, justement. Donc, je dois repartir 15 jours en France.
OK.
Donc ça s'est décidé il n'y a pas longtemps et je ne pourrais pas être avec vous pour le premier cours. Alors peut-être si j'arrive à me connecter pour l'écouter avec, je serai à l'aéroport en fait,
OK.
de 19h à 20h. Donc
Ben
je vais rester pour me connecter.
ça va être sur Zoom, comme on fait là.
Ouais, je verrai si je peux me connecter avec la tablette ou le téléphone, mais si vous ne me voyez pas, c'est que j'aurais pas pu. Voilà. Mais voilà.
D'accord.
Et puis quand je serai là-bas, ça va être difficile par rapport au décalage horaire.
Oui,
Là, c'est
6 heures, ça veut dire, mettons, 19 heures plus 6.
ouais.
Ça fait 3, 4 heures du matin.
Ouais.
Ouais, 3, 4 heures du matin, le temps du Mongolarty.
Je peux essayer, hein, ça peut être sympa, je peux essayer.
Ouais, OK.
Mais voilà, je voulais vous avertir si vous ne me voyez pas, c'est
Ouais.
la raison.
OK, je voulais juste vous dire aussi que j'ai vu Lynn au temple quand je suis allé au temple tout pour la fête de Prabhupada, là. Et puis Lynn me dit qu'elle écoute les cours. Elle ne peut pas venir pour le moment. Un de ses bonjours, elle va revenir. Et qu'elle vous dit tous et toutes bonjour. Hare Krishna.
Ah ben c'est juste ça.
Hare Krishna.
Hare
Voilà,
Krishna.
merci
Ben
beaucoup.
merci beaucoup parce que je pensais à elle et voilà, j'espérais qu'elle n'avait pas de soucis. Donc merci pour ce retour.
Ouais, il n'y a pas de. Elle dit qu'elle écoute les cours, mais qu'elle ne peut pas, pour le moment, venir au cours ou participer au cours. Alors ça va venir à un moment donné. Alors voilà. Alors merci beaucoup.
Merci
Merci.
beaucoup.
Hare
Allez,
Krishna.
Hare
Hare Haribol.
Krishna,
Bientôt.
Hare Bol,
Allez,
Jai.
bon.
Bon, Jai.
À très bientôt.
À très bientôt, c'est ça, mercredi. Jai.
Jai.
Jai, Hare Bol. Allez, bon. C'est pas. And.